Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h06 de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. Merci de nous écouter toujours aussi nombreux en direct, également en podcast. Vous pouvez déjà retrouver tous nos débats ce matin. On a parlé de Medvin Jaminet, de la qualification du Stade Toulousain pour la finale du top 14, de Loïs Boisson. Bref, vous pouvez retrouver tout ça en podcast. Toujours ce matin avec les GG, Simon Dutin, Julien Beneteau, Olivier Giraud, Pascal Duprat et notre invité Sébastien Rogue, navigateur. Et on en saura encore un peu plus sur toi dans une vingtaine de minutes. Merci d'être avec nous. Tout se passe bien pour l'instant quand on est vraiment dans le décorum. On écoute à la radio, on se dit tiens, c'est sympa quand on est dans le match là.
Ouais, c'est le truc est vraiment cool, mais l'équipe est pas top quoi. Ouais. C'est bon, on va pouvoir l'attaquer.
Malheureusement.
C'est bon,
c'est validé.
C'est validé.
Quand qu'on parle de ton bateau là. Ah, t'inquiète, dans 20 minutes on a dit.
T'as le visa. Merci d'être avec nous. Parfait. Alors dans quelques instants, on va parler du Paris Saint-Germain. Le PSG est-il devenu la référence mondiale? À 11h30 évidemment, on parlera avec toi Sébastien Rogue. Et puis 11h45, je vous le disais, le débat caché, les GG ne savent rien, Sébastien, tu ne sais rien, et pourtant il faut débattre. Ce sera à 11h45 et je vous promets, le plus grand débat de l'histoire des débats cachés. Voilà, le plus grand débat.
Ça c'est du teasing quoi.
Vous allez vous régaler. Est-ce que vous êtes prêt? T'es prêt Julien?
Bref.
Je sens que t'es pas prêt.
J'attends que ça.
Oui, je sens que t'es... Olivier, t'es prêt?
Dans le starting.
Simon,
moi je suis prêt pour le flop international. Ton histoire.
Vraiment, si vous avez des proches, des écouteurs à la radio,
souvent ils nous le survendent le truc. Et derrière, là, 10 minutes, on sait.
Je fais
rien à
un
dire.
Appel à tous nos auditeurs. Vous avez des proches, vous leur dites d'écouter RMC dès maintenant, évidemment, mais à partir de 11h40, ça va être absolument incroyable. Pascal, tu y crois?
Oui, j'y crois. Ouais. Tu me mens jamais. Donc, j'y crois.
Merci Pascal. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de François de La Rochefoucauld qui a dit un jour, rien n'est plus contagieux que l'exemple.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Ayoulou, la frappe de Poto. Poto Rabiot. Oh là 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 là. C'est la fête. C'est la fête des gamins. C'est la fête des gamins. C'est la fête des titis. Et c'est terminé. C'est terminé. C'est fini. Paris sur le toit de l'Europe. 14 ans d'attente pour les propriétaires qataris. 32 ans après Marseille, le football français remporte une deuxième Ligue des Champions. Et peut-être ça fait du bien.
C'est terminé, monsieur Kovac, qui met fin au calvaire, au supplice de l'Atlético de Madrid. 4-0 pour le Paris Saint-Germain.
C'est une équipe de très jeunes joueurs. Il y a beaucoup d'envie de gagner des choses, des titres, et ils arrivent dans les meilleurs moments pour Paris de jouer cette compétition-là.
Et c'est terminé, Botafogo bat le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain concède sa première défaite en tant que champion d'Europe. L'exploit de Botafogo.
Absolutely, they're still the best team in the world.
La Coupe du Monde des clubs, évidemment, à retrouver sur la radio digitale, sur RMC. Vous téléchargez l'application 100%. Coupe du Monde des clubs, vous allez pouvoir vivre, et vous vivez déjà tous les matchs de cette compétition. Alors, des scènes de liesse sur la plage de Copacabana, la presse brésilienne en transe. La victoire de Botafogo contre le Paris Saint-Germain dans la nuit de jeudi à vendredi a été célébrée comme un événement. Après son sacre en Ligue des Champions, le PSG est devenu l'équipe à battre, même un exemple à suivre pour les grosses écuries européennes, à l'image de Manchester City. Selon ESPN, Pep Guardiola souhaiterait s'inspirer du travail de Luis Enrique pour retrouver les sommets. La musique qui fout les jetons. Et cette question: le PSG est-il devenu la référence mondiale? Oui ou non? Simon Dutin?
Non.
Pascal Duprat?
Non.
Olivier Giraud?
Oui.
Julien Beneteau?
Oui.
Sébastien Rogue?
Non.
Trois noms, deux oui. Il y a matière à débat. Avant de débattre, on va retrouver notre envoyé spécial auprès du Paris Saint-Germain à Los Angeles, Fabrice Hawkins. Salut Fabrice.
Salut JC, salut à tous.
Salut Fabrice.
Les Parisiens ont-ils digéré ce revers?
Eh bien, dans les heures qui ont suivi la défaite, les têtes étaient basses, les visages fermés. Il faut dire que les joueurs du PSG sont tombés de haut. En interne, on avance trois raisons pour expliquer cette prestation. Le bon niveau de Botafogo qui a su saisir sa chance dans une rencontre globalement dominée par les Parisiens. La méforme passagère de joueurs qui, pour certains, ont joué près de 60 matchs depuis le début de la saison. Enfin, après les larges victoires coup sur coup face à l'Inter Milan, 5-0 en finale de la Ligue des Champions, puis le succès 4-0 contre l'Atlético de Madrid dimanche dernier, une forme de relâchement a pu s'installer. Le défenseur Lucas défenseur néerlandaise avait des regrets à la fin du match.
On savait que ça allait être compliqué, on a tenté. Malheureusement, on n'a pas pu revenir au score. Maintenant, il nous reste encore un match contre Seattle. Il va falloir gagner.
Ce revers contre Botafogo dans un match qui n'est pas décisif est perçu par la direction comme un bon rappel à l'ordre pour tous les joueurs. Ils doivent être à 100%. Ousmane Dembélé a repris l'entraînement avec le groupe hier. Il sera sans doute un peu juste pour affronter Seattle. Lundi, rencontre capitale pour la qualification en huitième de finale de la Coupe du Monde des clubs.
Merci beaucoup Fabrice. Évidemment, toutes les informations à retrouver sur rmcsport.fr pour tout savoir sur cette Coupe du Monde des clubs et sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Le PSG est-il devenu la référence mondiale? Je vais commencer avec un nom parce que ça m'étonne. Pourquoi Pascal Duprat?
Parce que ça, ma réponse, quand tu vas la prendre, tu vas t'apercevoir que je suis un passionné de football, que je pense que le Paris Saint-Germain est peut-être dans une ère future hégémonique, mais jusqu'alors, force est de constater que le Paris Saint-Germain, qui vient de gagner la Champions League pour la première fois, vient de rejoindre les 23 clubs qui ont déjà gagné la Champions League et font partie des 14 qui ne l'ont gagné qu'une fois. Parce qu'il y en a 13 qui l'ont gagné plusieurs fois, et notamment le Real Madrid qui l'a gagné 15 fois et qui, à mon sens, fait partie des clubs qui sont des références mondiales. J'arrive pas à croire aujourd'hui que partout dans le monde, quand on parle de football, de club, le premier club que l'on citerait, ça serait le Paris Saint-Germain. Bon, c'est toi qui as préparé la question avec Max. Vous êtes deux bons Parisiens, deux bons supporters, donc je comprends mieux pourquoi cette question, tu nous la poses.
Bravo,
voilà. Voilà, okay. C'est tout.
Très bien, merci Pascal. Je m'attendais
en fait,
pas...
Moi, j'ai pas compris la question comme ça, donc...
Mais parce que, vous savez,
il y a des prismes différents.
Non, mais c'est, alors des prismes, déjà, c'est une émission de sport, oui. Donc on va les mots compliqués.
Bon, des cerveaux aussi. Moi, je ne suis qu'un footballeur au départ, hein, d'accord?
Très bien. Mais je pensais pas quand même que le coup de couteau viendrait de ce côté-là, mon cher Pascal. Julien, alors comment tu as compris la question et comment tu réponds?
Moi, j'ai compris la question. C'est le PSG, là, actuel, de Luis Enrique. Est-ce que en ce moment c'est la référence mondiale?
Exactement. Et tu as parfaitement compris la question.
Est-il devenu? C'est tout est dans la question.
Voilà. Et pour moi aujourd'hui,
devenu.
Effectivement, quand Pascal dit que le Real Madrid est 15 fois la Ligue des Champions, oui. Mais aujourd'hui, en ce moment, le jeu.
Alors c'est l'équipe qui a le vent en poupe.
Voilà.
C'était ça la question.
Propose.
La référence.
Propose le PSG. Est-ce que Luis Enrique est en place? Oui, c'est la référence mondiale. Et j'en veux pour preuve. JC t'a dit, Guardiola veut s'inspirer de ça. Comme à l'époque, certains entraîneurs se sont inspirés de Guardiola.
Ouais.
Et Xabi Alonso, quand il prend ses fonctions au Real de Madrid, c'est quoi ses premiers consignes?
Courir.
Non, en train,
courir.
Parce qu'ils ont Guardiola, il va venir aux séances d'entraînement de Luis Enrique. Mais tu crois cette connerie, non? Non, mais arrête, s'il te plaît. S'il te plaît, bordel.
Non, mais je pense qu'il va demander à Alain peut-être plus d'efforts, ou il va peut-être demander à certains de ses joueurs. Il va peut-être dire, regardez ce qu'a fait Dembélé en finale de Ligue des Champions. Regardez ce qu'a fait Gvara et, je sais plus comment on dit. En termes d'intensité, en termes de course, les premiers propos de Xabi Alonso au Real de Madrid, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Et effectivement, parce que ce qu'a mis Luis Enrique en place, ils s'aperçoivent que c'est dans le football d'aujourd'hui ce qu'il va falloir faire pendant 2 ou 3 années pour être au sommet. Donc je pense qu'en cela, ils sont devenus une référence.
Ok, Simon, je te vois fulminer depuis tout à l'heure.
Je fulmine pas. Et encore une fois, je souligne la finesse de la rédaction chef de cette émission, comme chaque semaine, évidemment. Une référence, oui, la référence, non, Pascal l'a rappelé. Ils viennent de faire leur apparition dans le Gotha. Peut enfin, les mettre à la même altitude que certains clubs. Exactement, certains grands clubs prestigieux. Le blason du maillot a pris un petit peu d'épaisseur avec cette victoire en Ligue des Champions. Évidemment. Qu'on les regarde, il y a un effet de loupe sur leur victoire en Ligue des Champions. Ils ont rincé tout le monde en Europe cette saison. La référence, c'est quoi? C'est quelque chose d'inspirant, c'est un exemple sur lequel tu te reposes, qui est rassurant, qui est là toujours, qui est là, sur lequel tu peux t'appuyer, sur lequel tu peux te retourner. Mais ils viennent de faire leur apparition à ce niveau-là. La référence, ça reste le Real Madrid. Non. Une référence lorsqu'elle gagne, on n'est pas surpris, on n'est pas émerveillé, on n'est pas enthousiasmé comme les réactions qu'on provoquer le Paris Saint-Germain. Quand ce sera la référence mondiale, on se dira ah bah oui, bah c'est Paris qui a gagné. Évidemment, c'est la meilleure équipe mondiale.
Alors je sais qu'on va débattre de la question, mais là on débat du thème et ensuite vous débattrez, vous trouverez une meilleure question, comme ça on en parlera demain dans les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe. Mais non, Jean-Christophe, surtout pas. Mais dites-moi qui est la référence en rugby aujourd'hui.
Non, bah, on parle de foot.
Par exemple.
On parle de foot, là.
Ben oui, mais on parle de foot. On pourrait extrapoler sur un autre sport.
Laisse-nous d'abord te répondre, parce que tu as donné tes arguments avant de nous envoyer déjà sur le foot et pas te répondre, quoi quand même.
Non, mais si vous voulez me dire que j'ai pas compris la question, bon, bah allez, bravo.
Ça n'a rien à voir. C'est que la notoriété, est-ce que c'est devenu le club référence mondial? Il faut trois choses. Il faut d'abord des titres.
Ouais.
Après, il y a la notoriété, la marque du club. Ça, c'est important. Et je suis d'accord, je te rejoins. Le Real Madrid possédait ça. Barcelone a possédé ça. Oui. Et le jeu du moment. Et Barcelone et le Real Madrid ont possédé ça. Je suis désolé, mais en une année, il y a une révolution qui se passe au PSG. Depuis très longtemps, sur la notoriété, sur la marque, aujourd'hui, c'est le seul qui possède sur certains maillots une marque très connue. Quand une marque comme ça s'associe à toi, c'est que déjà, en termes de marque mondiale, tu es déjà au top. Au niveau des titres, le championnat de France était balayé. On les critique depuis 12 ans parce qu'il fallait gagner cette Ligue des Champions pour passer enfin de l'autre côté, du côté des grands. Donc ils y sont aujourd'hui, ils sont du côté
c'est
des
pas
grands.
De problème.
Mais par contre, là où ils ont mis une claque à tout le monde, c'est qu'ils ont révolutionné le jeu du foot moderne.
Alors attention,
non,
eh ben sont en train déjà de changer leur système de jeu.
Non, voilà. Moi,
et une vision du foot où il y a plus seulement
Xabi Alonso. Il n'a pas attendu la victoire du PSG de Luis Enrique pour appliquer ses principes de jeu avec Leverkusen. T'as regardé là un petit peu les matchs de Leverkusen la saison dernière.
Ça pourrait déjà un petit peu. Ça reste le PSG.
Luis Enrique a fait une masterclass.
Le mieux joué au monde aujourd'hui. Ça reste le PSG.
D'accord.
Donc c'est la référence mondiale cette année. C'est le PSG.
Il ne s'agit pas de remettre en question le caractère caractère exceptionnel de ce qu'a réalisé Luis Enrique.
Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus?
Et cette moyenne
Il doit faire quoi de plus pour que ça soit une référence mondiale?
Bah, Il faut qu'il continue à gagner.
Mais
si tu veux, on laisse de la place à Sébastien.
La sémantique. Dans le sport, quand tu commences à gagner une fois, tu deviens effectivement un phénomène et puis tu commences à être regardé. Mais si tu veux devenir la référence, et le là est important dans la.
Bien sûr.
Non. Avant là, il y a devenu.
L'année prochaine, quand ils vont reprendre la nouvelle Ligue des Champions, si là ils commencent à réimposer leur jeu et à gagner tous les matchs, alors dans un an ça va devenir la référence mondiale.
Ah, il faut combien pour
Au moins deuxième déjà.
Et pas forcément gagner.
Au moins confirmé. Ouais.
Non mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ce que déjà gagnes-en une.
Et par contre, soit
l'équipe référence d'une année déjà est proposée et mettre tout le monde à mal sur une saison, retourner tout le championnat d'Angleterre où tout le monde disait que la référence était Manchester City, la référence cette année, elle a pris
Liverpool.
Une plaque.
Non,
Liverpool.
Cette année, c'est le vainqueur de la Ligue des Champions, donc c'est la référence en Europe.
Non, mais même dans le contenu.
Attends, te couper
Pascal,
l'herbe sous le pied,
Pascal,
Olivier.
Dans le contenu.
Olivier, quand tu me dis que tu dois prendre parmi les critères de sélection, tu prends la récurrence des résultats. Bah, ils viennent de perdre contre Botafogo, alors c'est mort.
Mais non.
Paris Saint-Germain vient de perdre contre Botafogo. Toi, t'es dans de semaine en semaine. Non mais laissez un peu de temps. Alors, tu sais ce que le Real a construit. Attendez. Le Real Madrid, Barcelone, le Bayern de Munich. Là, c'est Milan et j'en passe. C'est des meilleurs. Liverpool.
Je fais pas des références.
Non mais attendez. S'il vous plaît. Attendez. Je resitue le débat.
Merci.
Je resitue. C'est important parce que là, on part dans tous les sens. Évidemment, la question, c'est de savoir si le jeu pratiqué par le Paris Saint-Germain, toutes les équipes vont désormais s'en inspirer.
Et
tu vas pouvoir répondre.
Non, mais
t'inquiète pas, Simon. C'est ça la question.
Ah,
c'est-à-dire que par exemple,
moi, j'avais compris dans le bon sens.
C'est pas uniquement quand tu gagnes un trophée que tout de suite, parce que tu as gagné, tout le monde veut s'inspirer de ce que tu fais. J'en prends par exemple Chelsea, qui a été dans le même cas de figure que le Paris Saint-Germain, a mis 10 ans avec à coup de millions d'euros d'investissement à gagner cette Ligue des Champions. Ils l'ont gagné avec Di Matteo, alors que c'était l'année où ils devaient jamais la gagner. Personne s'est dit,
à Lyon que ça peut devenir la référence, Chelsea. Pas du tout, parce qu'on savait que c'était un one shot.
Et Porto, là, en 2004, c'est pas devenu la référence du
non,
football.
Non, mais il y a des, voilà, alors, mais peut-être si. Mais oui, non, oui. Bien sûr, mais parce que moi, je parle pas que des titres, je parle pas c'est que quand on gagne une fois. Titre, je parle comment, que, est-ce que le modèle bien, de voilà. Luis Enrique, est-ce que ce modèle-là va faire que, aujourd'hui, comme on parlait du Barça de Guardiola, on parlera du PSG de Luis Enrique. C'est ça la question.
Bah oui, ça c'est sûr.
À ce moment-là, ça veut dire que là, pardon de te couper encore une fois l'herbe sous le pied. À la Coupe du Monde, l'Espagne a joué une Coupe du Monde triste à mourir sous les ordres de comment dire de Luis Enrique.
Sélection, c'est pas
le
même
football. Non. Ça dépend des joueurs que tu as à ta disposition. Et je pense qu'il est faux de dire qu'il a révolutionné l'aspect tactique du football.
Ah, ça c'est intéressant.
Si vous voulez, on peut
pourquoi
en parler.
Pourquoi
il a pas révolutionné? En fait, c'est un pressing constant, haut, ils profitent de la densité quand ils sont en haut, quand ils perdent le ballon en haut, pour tenter de le récupérer le plus vite possible.
Mais
pour parvenir à ses fins, il a l'équipe qu'il a construite lui-même, il a des coureurs à pied, il a Xvara qui est capable de faire des allers-retours en permanence. Donc à partir de là, pour ma part, je pense qu'il a pas révolutionné le football. Il veut maîtriser le jeu, tous ses concurrents, tous les entraîneurs des grands clubs veulent maîtriser le jeu, veulent avoir le ballon davantage
et le récupérer le plus vite possible.
Okay, et le récupérer le plus haut possible. Mmh. Mais à part ça, il met les latéraux qui de temps en temps se retrouvent à se retrouver dans l'axe du terrain, mais ça c'est vieux comme le monde.
Je suis désolé. Oh j'ai plaît. Jamais vu Hakimi en face d'avant-centre en finale de Ligue des Champions mettre le plat du pied comme il l'a mis.
Il demande à ses milieux de terrain qui viennent de derrière de pousser leur course pour surprendre la ligne défensive. Mais ça aussi c'est vieux comme le monde. C'est qu'aujourd'hui la conjonction, les facteurs de Luis Enrique, c'est il a décidé de l'équipe qu'il voulait aligner. Les joueurs sont extrêmement performants dans le rôle qu'il leur demande. Chacun est à sa place. C'est une équipe.
Non, Dembélé, il n'est pas à sa place. C'est quand même Enrique qui a l'idée de remettre Dembélé dans l'axe et de le faire courir comme un marathonien. Dembélé à Dortmund au Barça, il ne courait jamais.
Mais que Grealish va être placé avant-centre sous prétexte qu'il le fait à Manchester City. Arrête! C'est le savoir du coach, son empirisme, qu'il a fait choisir Dembélé à ce poste-là. Et il se trouve que c'est une idée géniale. Mais c'est juste l'idée d'un coach. C'est pas une révolution du football. On va pas mettre tous les ailiers pour copier, pour plagier Luis Enrique. Tous les ailiers dans les équipes en Europe avant-centre.
Ceux qui ont des vrais avant-centre. En fait, ce que je veux dire, révolutionne rien, parce que pardonnez-moi, mais le Barça de Pep Guardiola, il avait des joueurs exceptionnels, il avait un milieu de terrain absolument incroyable. Donc on dit quoi? On dit bon,
ouais, c'est trop facile.
Vu les joueurs qu'il avait, c'est normal qu'il arrive à faire ça.
Et puis quand il est au Bayern, il gagne, c'est trop facile parce qu'il a la meilleure équipe. Et quand il est à City, il est champion d'Angleterre.
Non, parce que Guardiola, lorsqu'il arrive au Barça, il dit Ronaldinho, j'en veux plus, Eto, j'en veux plus, Deco, j'en veux plus. Ah bon, tu vas mettre qui? Je vais mettre Busquets. C'est qui Busquets? Il joue, t'inquiète, il vient de là.
Mais Luis Enrique, là, il voulait pas de Neymar, il voulait pas de
Mbappé. Mais c'est ce qu'a dit. Dans ce cas, ça a déjà été fait. C'est pas une révolution. Il a réussi à faire mieux que les autres avec, en effet, et ça c'est le crédit qu'on doit lui accorder. Ses joueurs, des joueurs en plus d'une moyenne d'âge.
C'est quoi, j'hallucine quand j'entends ça. J'hallucine. Ça veut dire que Désiré Doué, il était remplaçant il y a 8 mois aux Jeux Olympiques. Et là, on dit, il a des joueurs extraordinaires, machin,
c'est
ça va
aller. Ça
va la manière
mais
dont
ça,
il a
c'est
fait
juste progresser. Le rôle d'un entraîneur, Olivier.
Et d'en faire un des meilleurs joueurs, des joueurs les plus bankable du monde en 6 mois.
Ils l'ont acheté 20 briques, tu penses qu'ils ont. Ils ont découvert qu'il était bon. Arrête, ou 50 briques. Tu penses qu'ils ont découvert là qu'il était bon? C'est Luis Enrique qui a découvert qu'il était bon.
Non, mais entre dire qu'il devient bon et qu'il devienne un joueur incontournable
sous sa responsabilité,
personne n'aurait mis un copec.
Non mais au final, moi, 50 millions, franchement, je m'y connais moins que vous en foot sur qui fait quoi et la position exacte de tout le monde dans l'équipe. Moi, le seul truc que je vois sur l'équipe de Paris, c'est qu'en fait, tu vois juste une équipe. Tu vois des gens qui sont contents de jouer ensemble et qui tuent le maillot pour aller gagner. Et au final,
ça c'est la grande révolution de Luis Enrique. Il a réussi à faire jouer Paris en équipe.
Ben voilà, et c'est ça, moi, le truc que je trouve le plus pertinent pour la suite, c'est qu'ils ont l'embryon d'une équipe humaine qui va aller demain aller chercher plus de trophées. Et pour revenir à la question plus globale, c'est est-ce que le PSG est la référence mondiale? Je pense que sur d'autres sujets. Ils ont des fondations extrêmement solides, marketing, business, qui, dès qu'ils auront continué leur ascension sportive, va devenir évidemment la référence planétaire. Mais c'est encore un peu tôt pour le dire.
Et Botafogo, s'ils avaient affronté l'Inter ou la Juve ou le Bayern, ils auraient mis le bus aussi, et ils auraient fait une beach party pour fêter ça aussi s'ils les avaient battus. C'est pas parce que c'est Paris que ça a été la folie. Quand tu regardes la façon de jouer de Botafogo, tu te dis oui, en effet, bon, Paris c'est l'équipe à battre, une des équipes à battre. Mais bon, de là à dire c'est devenu la référence mondiale, doucement.
C'est toujours sympa de taper le champion d'Europe en titre.
Mais oui, bien sûr, c'est une fierté.
Parfait, on a bien compris votre positionnement. En tout cas, pour une question mal posée, ça a quand même fait pas mal débat. Lucas est avec nous au 32-16. Salut Lucas.
Salut l'équipe.
Salut Lucas.
Vas-y, positionne-toi sur le sujet qui a été très chaud.
Déjà, tu m'as pris mon argument de Chelsea, parce que j'allais dire, quand Chelsea gagne la Ligue des Champions, ça fait pas autant de tollé que le Paris Saint-Germain. Maintenant, pourquoi le Paris Saint-Germain est une référence mondiale? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va vouloir contrer le style de jeu du Paris Saint-Germain. Il y a eu le football total, aujourd'hui il y a le football interchangeable. Les joueurs ne sont plus au même endroit à 3 secondes près dans le match. Et ça, on l'a vu nulle part. Si vous arrivez à me dire qu'il y a une équipe qui met...
Tu regardais pas le football.
J'ai vu Marcelo, j'ai vu Cafu, j'ai vu Roberto Carlos, je les ai jamais vus avant-centre. Quand Nuno Mendes, il met le but sur la passe décisive de Dembélé en demi-finale, il est avant-centre. Aujourd'hui, il n'y a plus de positionnement. Ça veut dire que même pour un défenseur, pour pouvoir marquer son joueur, il n'y aura plus de marquage direct comme ça a pu le faire jusqu'aujourd'hui. C'est une révolution. On ne peut pas dire que c'est pas une révolution.
Ça fait 25 ans qu'on joue en zone au football.
Tout le monde ne joue pas en zone. Aujourd'hui, il y a des équipes qui disent bon, toi, tu vas marquer tel joueur parce que on sait que c'est très fort. Par exemple, Messi, il y avait un joueur bien précis qui allait le marquer. Aujourd'hui, c'est plus possible parce que des Messi, il y en a partout. Messi se baladait partout sur le terrain. Aujourd'hui, Hakimi se balade partout sur le terrain. Neves, Vitinha, tout le monde se balade partout. Comment on contre ça? Aujourd'hui, la révolution, c'est que tout le monde va devoir s'adapter au jeu du Paris Saint-Germain et tout le monde va devoir contrer le Paris Saint-Germain. C'est ça la révolution. C'est qu'il y a une équipe qui devient référence et au-delà de ça, même des clubs qui nous critiquaient comme le Bayern Munich, etc. Donc en Allemagne, on n'était pas du tout aimé. Aujourd'hui, si vous y allez, je suis désolé, tout le monde est unanime. Donc Luis Enrique, il a quand même apporté ça au Paris Saint-Germain. Mais pourquoi il l'a apporté par le jeu? Il l'a pas apporté par l'équipe. Le Paris Saint-Germain, on va toujours dire qu'on claque des milliards.
Franchement, vous avez perdu la mémoire.
Monde, etc.
Moi, c'est surtout au-delà de l'aspect tactique où Pascal, tu as ton idée et ton analyse qui est beaucoup plus fine que la nôtre. Moi, c'est sur l'aspect effort. Je suis désolé, Pascal, il y a beaucoup d'équipes ces derniers temps, et depuis tout temps, qui jouaient avec que 8 ou 9 joueurs qui faisaient les efforts défensifs. Il y avait toujours 2 ou 3 joueurs offensifs qui ne couraient pas.
Principalement Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain en Europe était la seule équipe où il y avait 3 joueurs qui ne défendaient pas.
3 peut-être, mais il y a au moins 1 ou 2. Et je pense que c'est en ça que le PSG a entre guillemets révolutionné, et le discours de Xabi Alonso qui s'adresse à Vinicius et à Mbappé, je pense qu'il est à ce moment-là calqué, parce que regardez ce que fait le PSG et que c'est comme ça qu'il va falloir jouer, en tout cas dans les efforts, si on veut rivaliser.
Et juste si on peut rester sérieux, Lucas, ça se voit que t'aimes le ballon, mais des Messi, il y en a partout, je te cite, c'est du blasphème là, excuse-moi.
Lucas, tu t'es très bien défendu, merci d'être bien, Lucas. Parce que débattre avec vous, les copains, c'est pas cadeau.
Non, mais je pense que Lucas, il va au match du Paris Saint-Germain avec toi, non, Jean-Christophe?
Merci Lucas, et on se retrouve évidemment dans le bloc B, l'étage du dessous, pour évidemment revoir un match ensemble. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec notre invité Sébastien Rogue. Ce matin, qui va nous parler de son actualité. On a beaucoup de questions à lui poser. Et moi, d'ailleurs, pourquoi jamais le Vendée Globe, par exemple? Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h33 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Simon Dutin, Julien Benneteau, Olivier Giraud, Pascal Duprat et notre invité Sébastien Rogue. Sachez en tout cas que les débats se poursuivent pendant la publicité. Un jour, je vais vraiment passer les débats parce que vous êtes excellents pendant la pub. Hein. Je tiens à vous le dire. Vraiment, je les passerai en direct parce que vraiment,
bien meilleur
qu'il y a quelques minutes. Hein. Ouais, vraiment, c'était sans commune mesure.
On les a encore démolis même hors antenne.
On relance pas le débat, s'il vous plaît. Non, Olivier, je sens que tu veux répondre. On relance pas le débat tout de suite parce qu'on est avec notre invité.
Sébastien Rogge est avec nous aujourd'hui, lui qui a remporté la Transat Jacques Vabre en 2021, fidèle auditeur d'RMC, des grandes gueules du sport. Merci d'être avec nous, mon cher Sébastien.
Avec plaisir.
Il y a la prochaine édition de la Transat Jacques Vabre qui va changer de nom, qui s'appelle la Transat Café L'Or. On reste dans le même domaine, évidemment, du café pour cette transatlantique, l'une des plus connues au monde, avec évidemment la Route du Rhum, et puis sinon la plus prestigieuse course à la voile, c'est évidemment le Vendée Globe. On va en parler dans quelques instants. Mais déjà, pourquoi tu ne participes pas à cette édition 2025, toi qui as déjà donc remporté le trophée en 2021?
Bah parce que cette année, je laisse ma place à mon fidèle bras droit, un mec qui s'appelle Jean-Baptiste Jollet, qui est avec moi depuis des années, et c'est lui qui va prendre le départ avec Mathieu Perrault, donc le skipper d'Interinvest, et qui va, j'en suis certain, brillamment remporter cette Transat Café L'Or.
On rappelle évidemment, tu pousses les copains, bravo à toi. On rappelle que cette Transat Jacques Vabre se dispute à deux, évidemment. Est-ce qu'il y a un petit sentiment de regret, un petit quelque chose de pas pouvoir, non pas aller défendre ton titre, parce que toi, ton titre, c'est en 2021, mais de pouvoir te frotter de nouveau à la compétition?
Ah, tu sais, moi, ça va faire quasiment 20 ans que j'ai la chance de faire ce métier. Et je crois que de temps en temps, prendre des petites pauses et créer de la frustration, ça fait du bien pour revenir plus fort, avec plus d'énergie. Et je suis un peu dans cette démarche-là aussi en ce moment, réussir à recréer une envie qui va faire que quand j'aurai la chance de revenir à la barre du trimaran pour une grande transatlantique, parce qu'il en faut de l'énergie pour gérer ces bestiaux là en carbone.
Est-ce que c'est prévu là une nouvelle grande compétition comme ça, une route du Rhum? Est-ce que déjà tu as déjà un calendrier en tête ou pour l'instant c'est encore assez flou?
Ouais, pour l'instant c'est assez flou. Là l'objectif il est de pousser Mathieu Perrault sur cette Transat Jacques Vabre avec JB, la route du Rhum 2026, et puis à côté moi j'ai plein de projets du coup avec notre écurie, avec Mathieu, avec François, on travaille sur des projets assez excitants.
Parce que tu n'es pas seulement un skipper, tu es aussi un manager, mais on sait que vous êtes des sportifs pas comme les autres, on en a souvent reçu dans cette émission.
On est différent.
Et vous êtes différent, et votre business model et votre fonction est différente. Il n'y a pas que le sportif, évidemment, il faut aller aussi à la chasse aux sponsors. Enfin bon, c'est une vraie, entreprise.
C'est plusieurs personnalités en une, les marins. C'est des chefs d'entreprise, des managers, des skippers, des architectes, des ingénieurs, enfin c'est assez bluffant. Je voulais te poser une question sur les trimarans. Tu disais, c'est quelle classe? C'est pas les ultimes qui font...
Voilà. En trimaran, dans la voile pro, tu as deux classes. Tu as les ultimes qui font 32 mètres de long, ouais, 23 de large, et tu as les Ocean 50 qui font 15 mètres 24 de long, 15 mètres 24 de, haut, okay, de large. Quand tu regardes de haut, c'est un carré. Et en fait, c'est des bateaux, je te donne le poids, c'est assez léger, ça fait 3600 kilos.
Okay.
Donc, en fait, c'est hyper léger, c'est des bateaux qui se retournent. Un peu comme les catas de plage dans la baie de la Baule, comme ça, juste par hasard, comme endroit. Et ben, en fait, sauf que nous, ça peut nous arriver, et la première côte, elle est à 2000 km. Quoi. Et là, t'es dans la merde. Donc, en fait, c'est un peu ils sont stressants, ces bateaux.
Pascal Duprat.
Quand tu dis que t'es avec ton équipe sur de nouveaux projets, c'est-à-dire la construction d'un nouveau bateau pour une épreuve future, c'est ça ou c'est
en fait,
d'autres projets?
Les projets, quand dans la voile, ça met beaucoup de temps à émerger, beaucoup de temps. Donc il faut réfléchir vraiment en amont. Aujourd'hui, on réfléchit au projet 2030. On est qu'est-ce qu'on va dans quelle classe on veut que l'écurie soit présente, comment on va financer tout ça, comment est-ce qu'on va choisir les meilleurs bateaux. Et donc aujourd'hui, c'est un peu balbutiant tout ça, mais on réfléchit déjà pour avoir un coup d'avance, parce qu'après comme tu disais, il y avait tout l'aspect marketing, business, et ça prend beaucoup de temps.
Olivier Giraud.
Et ça a changé quand même le marin. Vous êtes les marins 4.0 aujourd'hui, parce que on a eu cette époque des grands navigateurs qui traversaient sans rien, limite avec la boussole, le sextant, et maintenant vous êtes des marins connectés. Est-ce que il y a un différentiel de génération là entre les skippers qui partent?
C'est aujourd'hui la génération qui monte est encore plus celle qui est derrière moi. Enfin, qui arrive, qui nous pousse même déjà. En fait, si c'est, il y a plus rien à voir avec ce qu'on a connu des Tabarly,
des Bourgnon et compagnie.
Des Bourgnon et tout ça. Aujourd'hui, moi, plus de 50% de mon temps, c'est plutôt être chef d'entreprise et sportif de haut niveau pendant 50%. Et au final, quand les petits jeunes me demandent comment est-ce qu'on fait pour demain aller gagner une Jacques Vabre, une Route du Rhum, ce que je dis souvent, c'est en fait ta course, tu commences à la gagner dans le bureau de ton banquier. Parce que c'est un sport mécanique, c'est un sport dans lequel il faut dépenser de l'argent, et tes investissements sont hyper importants. T'achètes un bateau, tu l'achètes pour 5 ans. Donc si tu te trompes, ouais, si t'achètes pas le bon, si tu veux pas construire le bon, t'es baisé en fait.
Mais toi, justement, tu as un pied dans chaque génération.
Je m'attendais pas à cette fin de phrase. J'étais juste en train de Mais ce sera coupé au montage, évidemment, on n'est pas en direct. Vas-y, Simon.
Toi qui as un pied dans chaque génération, justement, c'est vrai que ces dernières années, il y a un petit peu moins de mysticisme autour de ces grandes aventures en solitaire, tu vois. Pourquoi partir? Comment revenir? Comment arriver à destination? Tu vois?
Ouais, on est beaucoup moins dans l'aventure.
Et beaucoup plus dans le pragmatisme. Et tu vois, tu parles un petit peu de ces côtés très terre à terre, l'argent, les financements, le projet, le côté chef d'entreprise. Toi, est-ce que tu te souviens du jour où tu t'es décidé? Est-ce que c'est en faisant un peu de match racing, justement, dans la baie de la Baule? Quel jour tu t'es dit, bon, en fait, j'ai envie de cette vie-là, quoi.
Je me suis dit quand vraiment l'école était un truc que je détestais et où je me suis dit mais j'ai vraiment envie de me barrer en solitaire et c'est vraiment de là, enfin alors c'est pas vraiment, mais c'est depuis tout jeune en fait où et après j'ai eu la chance d'être éduqué par un père qui a fait 3 fois les Jeux Olympiques, qui était dans l'équipe et capitaine de l'équipe de France d'hockey sur gazon. Donc en fait moi j'ai grandi autour du sport, mais comme le hockey sur gazon est encore aujourd'hui c'est pas un sport pro, bah en fait ils devaient bosser ces sportifs-là et mon père était chef d'entreprise. Moi j'ai grandi entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat. Et au final je fais que dupliquer ça. Aujourd'hui un boulot de skipper c'est chef d'entreprise dans le sport de haut niveau.
Pourquoi, on en a beaucoup parlé cette année évidemment, 2024-2025 c'était le Vendée Globe, pourquoi toi qui as plus de 17 ans de carrière, pourquoi tu n'as jamais fait le Vendée Globe?
J'ai jamais fait le Vendée Globe pour plusieurs raisons.
T'as fait le Tour du Monde aussi, déjà?
Non, j'ai pas fait le Tour du Monde. Et en fait le Vendée Globe, et moi j'ai un respect mais immense pour les skippers du Vendée Globe, néanmoins dans la voile il y a 2 grands types de bateaux, il y a les multicoques, les monocoques. Moi je suis parti sur le multicoque avec dans l'objectif, j'espère un jour de pouvoir réaliser mon rêve qui est d'aller faire le trophée Jules Verne.
Ah, voilà.
Le trophée Jules Verne, c'est le parcours du Vendée Globe, mais en 40 jours. Mmh. Aujourd'hui, le Vendée Globe, c'est 64. Et ce qu'a fait Charlie Dalin est juste hallucinant. Mais ça ne fait pas partie des lièvres que je cours. Et quand tu veux accéder à ton rêve, en fait, c'est dur d'aller te disperser sur d'autres sur d'autres activités. Okay.
Le Vendée Globe, ce n'est pas ton rêve.
Et donc, le Vendée Globe n'est pas mon rêve. Et il est assez peu probable qu'on me voit dessus.
Est-ce que tu penses que ces nouveaux bateaux là, ces ultimes qui partent pour le trophée Jules Verne, on a vu cette année que
ça marche pas.
Oui. Que Thomas Coville est revenu 2 fois, que
Gabart est revenu 3-4 fois.
Voilà, ils ont tenté avec les fenêtres et ils sont pas arrivés. Est-ce que tu penses que les bateaux sont pas adaptés pour pouvoir faire le trophée Jules Verne, sont trop fragiles, sont trop grands, trop gros, et est-ce que un bateau plus petit serait capable de battre le record du monde du Jules Verne?
Je pense que la problématique, elle est sur effectivement le côté fragile des bateaux. Je pense que les bateaux qui sont aujourd'hui conçus, ils servent à faire la route du Rhum, ils doivent aller gagner la route du Rhum, okay. Ils doivent aller gagner la Jacques Vabre, et en même temps, on leur demande de gagner les Tours du Monde. Moi, je suis pas ingénieur, et je suis pas à la tête de ces écuries-là. Néanmoins, je pense qu'on demande c'est comme demander à une voiture de pouvoir gagner les 24 heures du Mans et en même temps un grand prix de Formule 1. Cette voiture-là, elle n'existe pas. Est-ce qu'on est un petit peu dans ce registre-là avec je pense.
D'accord.
Et je crois que pour aller faire un tour du monde, il faut un bateau super fiable, faut un coffre-fort qui va traverser la. Et puis parce que derrière, t'as quand même la vie de 7 bonhommes.
Ouais, bien sûr.
Sur le pont.
Ouais.
Donc tu peux pas te permettre de dire, c'est pas toi, c'est le truc qui se pète en deux.
Ouais.
Donc il faut vraiment des. Moi, je suis.
C'est une responsabilité qui est importante.
Quand t'es skipper, ouais. T'es responsable en mer.
Olivier Giraud.
Est-ce que la mer est devenue dangereuse? Je me comprends. Les bateaux sont de plus en plus rapides, de plus en plus fragile, et on entend souvent des impacts qui ne sont plus des impacts de la mer elle-même. Et toi qui es sur l'eau, est-ce que tu l'as vu devenir plus dangereuse avec beaucoup plus d'objets qui n'ont rien à faire là, qui rendent les traversées dangereuses?
Ah oui, c'est aujourd'hui, c'est clair. Hein, moi, je me positionne pas comme un protecteur de l'océan, comme le peut le faire François Gabart ou d'autres. Mais par contre, je pense que je suis un peu grand reporter de tout ça parce que j'ai la chance d'y évoluer. Et clairement, tu vois aujourd'hui en mer des trucs que tu devrais pas voir. Mais je crois que le pire, c'est ce qu'on voit pas, c'est tout ce qui est microplastique et ainsi de suite. Et l'autre souci auquel on aujourd'hui sur ces grands bateaux, on peut plus trop passer à côté, c'est aussi de la partie cétacée, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de trucs qui sont en train d'être mis en place pour que tout ce beau monde vive en harmonie sur l'océan.
Merci Sébastien, en tout cas pour ton témoignage. On est très heureux de te recevoir. Tu continues de débattre avec nous parce que là tu vas être gâté pour la première fois. Tu vas participer à un débat caché.
Et c'est le plus grand.
C'est le plus grand
histoire.
Attache ta serviette autour du cou.
Alors là tu vas voir, ça va déménager vraiment. Tu vas pas être, tu vas pas être déçu d'être venu. À tout de suite sur RMC.
Il est
11h44.
Il est content.
Vraiment, moins de 2 minutes. On est de retour. Ça va être incroyable. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h47, la dernière ligne droite des grandes gueules du sport avec ce matin Simon Dutin, Julien Beneteau, Olivier Giraud, Pascal Dupraz, Sébastien Rogge, notre invité. Le grand moment est donc venu. Un débat de fond, un débat puissant. C'est le débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Ah, les GG ne savent rien, vous le savez, pourtant il va falloir débattre. Et il va falloir débattre de cette question que je vais vous poser dans quelques instants. Votre guet-apens, votre débat caché aujourd'hui, certainement le plus grand de l'histoire, je le disais, de cette émission. C'est ça.
But it was a bit noisier inside the Mattioli back in October 2024 in the first round of the World Grand Prix when Wade won.
Ah, il faut comprendre un peu la langue de Shakespeare, les amis, évidemment. C'était du live. Peut-on vraiment tout se permettre pour gêner son adversaire? C'est une nouvelle polémique dans le monde des fléchettes. L'anglais James Wade, 9e mondial, s'est retrouvé au cœur d'un scandale lors du dernier tournoi cette semaine de Leicester. Début mars? Sachez qu'il avait déjà léché le cou du numéro 1 mondial, Luke Humphries. Cette semaine, il a tenté de déconcentrer son adversaire en lâchant un gaz. Un pet dans sa direction juste avant son lancer. Dérangé, son adversaire Peter Wright a fait un pas de recul avant de se plaindre auprès de l'arbitre. L'officiel a proposé au joueur de marquer une pause, le temps d'évacuer l'odeur désagréable avant d'ajouter « Allez messieurs, c'est un match de fléchettes diffusé en direct au final ». Sachez que James Wade a réussi à s'imposer au bout du suspense. Vous le savez, Thierry Ardisson demandait à ses invités si Sucé s'était trompé. Moi, je vous demande officiellement ce matin, les gars.
Et voilà, t'as trébuché à 2 mètres du buffet.
J'étais pas loin, mince. Je vous demande officiellement, les GG ce matin, est-ce que Pété s'est triché? Oui ou non, Simon Dutin?
Non.
Olivier Giraud?
Quoi?
Je vais dire oui.
Oui, bien sûr que oui. Julien Beneteau.
Non, mais si ce débat caché est le plus grand de l'histoire, je suis attristé pour tous tes débats cachés.
Sébastien Rogge, oui ou non?
C'est dur de répondre à ça. Je dirais oui.
Plutôt oui, ok. Pascal Dupraz.
Oui.
Oui, quelque part. Au-delà de la blague, évidemment. Jusqu'où on peut aller pour déconcentrer son adversaire? Et là, je m'appuie évidemment sur les sportifs de haut niveau que vous êtes. Les amis, comment vous répondez à cette question? Comment vous répondez à ce débat? Qui veut se lancer dans cette question difficile? Sébastien.
Non, mais en fait, tu peux déconcentrer. Enfin, il y a des règles dans le sport. Il y a des valeurs, quoi. Donc, c'est pas possible. Tu lâches pas une caisse pour déconcentrer ton adversaire, quoi.
Non, ça ne se fait pas. Très bien.
Si t'as mangé des faillots.
Faut pas t'insurger, j'y sais. Hein, tu l'as bien cherché, excuse-moi.
Faudrait savoir ce qu'il a bouffé, l'anglais qui joue aux fléchettes.
Je pense qu'on n'aura pas le poliser avec ça. Mais essayons de rester sérieux, Julien. Voyons, tu t'offusques. Julien, toi, dans ton sport.
Non, mais
comment on peut faire pour déconcentrer un adversaire et jusqu'où on a le droit d'aller?
Lui, il a un filet.
Non, nous on a fait là, mais il peut y avoir un peu de trash talking, ça peut se parler au changement de côté, ça peut se parler dans les vestiaires, ça peut s'intimider dans plein de sports parfois.
Il touche les parties et tout.
Avant de tirer un penalty au foot, temps en temps ça parle. Il y a le gardien, il va garder le ballon et il va le poser, il va bouger, il va faire ci, il va faire ça. Bon,
je
voilà.
Voudrais votre expérience personnelle, les amis. Toi, qu'est-ce que tu as déjà fait, Julien, dans ta carrière, même si vous avez un sport de gentleman.
Non, mais même moi, non, pour perturber mon adversaire, non, pas grand-chose.
En revanche, Olivier, ça, j'y crois pas. J'imagine que tu as fait des choses.
Oui, mais eux, ils sont sport de contact. C'est comme au rugby.
On se parle.
Ils se parlent.
On se parle.
Se mettent des coups. C'est pas pareil. C'est physique.
On se branche, on se parle. Ouais. Mais il y a des spécialistes de la déstabilisation un petit peu plus grande. Et ouais. ouais, ça arrive. Tu peux te faire toucher les parties en plein match. Ouais, ça arrive, ouais.
Bon, on l'a vu avec Zidane. Mmh.
Non, non, mais voilà, ça arrive. Ouais, ça arrive.
Materazzi. Hein.
À partir du moment où c'est fair play, moi, je pense.
Mais ça se parle beaucoup.
Mais
ça se parle
beaucoup. Moi, justement, Pascal, j'allais dire que ça peut ne pas être fair play, mais dans les limites du règlement, à partir du moment où c'est pas interdit par le règlement.
Je te parle de. Moi, j'ai joué dans les années 80, donc pas aussi télévisé qu'aujourd'hui. Moi, j'ai joué, je vais taire le nom du club, en Division 1, donc en Ligue 1, dans un club où chaque fois qu'il y avait alignement dans le couloir, eh bien, on avait un joueur préposé à envoyer des tartes à l'adversaire. Petite tape derrière la tête. Voilà, à domicile. Donc, est-ce que ça déstabilisait pour autant l'adversaire? J'en sais rien. Mais toujours est-il que si on reporte ça aujourd'hui, ça pourrait pas être fait. Parce que ça serait vu, commenté, on crierait au scandale et on aurait, à juste titre, on crierait au scandale. Mais bon, par exemple, pour déstabiliser l'adversaire, il m'est arrivé de demander à mes joueurs de pas sortir à l'échauffement. Voilà, ça c'est il y a quelques années.
T'es jamais arrivé dans un vestiaire à 40 degrés aussi? T'arrives le vestiaire, si, tu pouvais même pas rester
dedans. Parce qu'ils ont mis le chauffage. Bien sûr que ça m'est arrivé.
Il a gagné l'auteur de.
Oui, il a gagné.
D'accord.
Il a gagné son match et ensuite il a été sorti par le vainqueur de la compétition parce que j'ai évidemment bien bossé ce débat caché. Oui, il a gagné son match face. Alors on ne sait pas si ça a déstabilisé, mais moi ça m'intéressait. Au-delà de cette histoire qui prête à sourire, parce que ça a été quand même une polémique dans le monde des fléchettes, sachant que lui est en plus coutumier du fait, il aime bien déstabiliser ses adversaires. Jusqu'où on peut aller? Toi, qu'est-ce que tu as pu voir, Olivier, d'incroyable?
Déjà, pour déstabiliser pour gagner, c'est que t'es moins bon, quoi. C'est que t'as besoin d'artifice pour essayer de gagner, donc.
C'est que t'es pas sûr de toi.
Oui, je te parlais des pays des Balkans. Nous, quand on jouait dans les pays des Balkans, t'avais des coups de fil toute la nuit, pour pas que tu puisses dormir.
Obligé ou le concert de klaxon en bas de l'hôtel.
De klaxon, ouais, t'as de tout. T'as de tout.
Ça aussi, j'ai connu aussi. C'est marrant.
Et je peux même aller plus loin. On a joué des matchs où, à l'époque, et c'est Daniel Constantini qui peut en parler le mieux, où nous, on n'avait rien à jouer dans une poule et l'équipe du pays en question avait besoin de faire match nul ou de gagner contre nous pour aller plus loin. Et on a déjà proposé des mallettes à Daniel Constantini qu'il a évidemment refusé, ouais. Ouais, ça va jusque-là, ouais.
Dans des matchs internationaux.
Dans des matchs internationaux, oui, évidemment, avant les paris et tout ça.
Ok. Là, c'est autre chose que le fair play, parce que là, on est un petit peu plus loin.
On peut aller très très loin pour déstabiliser une équipe, bien sûr.
Bon, malheureusement, j'ai pas vécu le milieu international en équipe de France A, mais au niveau national, championnat de France, j'ai joué un jour un maintien à Sochaux avec l'Évian Thonon Gaillard.
Ah, je me souviens.
Remporté 0-3.
Entraîné par Hervé Renard, c'est ça.
Hervé Renard. Mes joueurs ont pas dormi de la nuit la veille parce qu'ils n'ont fait que nous déstabiliser. Des concerts de klaxons, des téléphones, même l'hôtel était
de mèche. Mais c'est de bonne guerre.
Bon, ce qui était formidable, c'est le lendemain. C'est quand tu gagnes 3-0 et qu'un quart d'heure de la fin, tu vois tous les supporters sochaliens s'en aller. Bah, c'est la première fois de ma vie que grâce au football, j'ai eu une érection.
Hein. aujourd'hui.
Ça pète les plombs.
Ok, les amis.
On c'est presque, il est 5
ans. Vous savez quoi, bravo.
C'est peut-être ma faute.
C'est ta faute.
Moi, j'ai voulu être sympa avec vous détendre un petit peu et voilà comment vous me remerciez. Voilà. Non, merci les bruitages en régie. On n'est pas allé jusque-là. Ça va aller, ça reste quand même une émission sérieuse, c'est les grandes gueules du sport. Simon, comment tu as trouvé ce débat caché?
Je suis affilié, Jean-Christophe.
Bah, moi aussi,
j'ai un peu d'unité dans ce débat, mais voilà.
Sébastien, on est solidaire, j'y sais. Une première, est-ce que.
Ah ouais, le niveau me va très très bien.
Merci d'avoir été avec nous en tout cas et d'être
avec
venu
plaisir.
En studio dans les grandes gueules du sport. À bientôt dans les GG, évidemment, on suivra ton parcours. Merci beaucoup les GG.
De rien.
Ciao. T'as l'air affligé. Ah, ça c'est le nom du
tennis. Je me prépare, j'ai la TCP Cup là toute l'après-midi.
Ah, c'est oui,
il est déjà tenu.
Je suis là, je suis prêt.
Ok, bon, je joue au tennis et on se retrouve demain dans les grandes gueules du sport, on est d'accord. Merci pour la soirée. Peut-être. Merci Pascal, merci Olivier.
Allez, ciao.
Merci Simon, merci d'avoir été avec nous demain, évidemment, à partir de 9h. Et on reprendra notre sérieux. On ne parle que de sport, évidemment, mais on parlera de la finale. On connaîtra les deux finalistes pour le top 14. Évidemment, on vous attend au 32-16. Dans quelques instants, les paris RMC. Restez bien avec nous. On vous embrasse. Passez une très belle journée. Salut.